Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Aliette Ovine, Cédric Fuentes, Louis Drillon et Arjuna Andrade. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Pierrick Monsigny.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Premier jour de notre série consacrée à l'Europe. L'Europe politique, mais aussi et surtout l'Europe économique, à 2 mois et demi du grand test électoral. Demain, nous examinerons la place de l'Europe dans la mondialisation, à l'ombre des géants américains et chinois. Mercredi, c'est l'avenir de l'euro et sa pertinence économique que nous interrogerons. Jeudi, enfin, nous ouvrirons le débat sur la possible émergence d'une Europe sociale. Mais d'abord, revenons au fondement même de l'idée d'Europe, à cet esprit général européen, cher à Montesquieu et aux philosophes des Lumières. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons revenir aux origines de l'idée européenne en compagnie de Céline Spector, professeure de philosophie à Sorbonne Université, co-directrice de l'ouvrage « Penser l'Europe au XVIIIe siècle » paru aux presses universitaires d'Oxford, en compagnie également d'Aliénor Ballanger, enseignante en sciences politiques à Sciences Po Bordeaux et auteure d'une thèse soutenue l'an dernier intitulée « L'invention de Bruxelles, l'intégration européenne par le peuple ou pour le peuple ?» En fin d'émission, on retrouvera les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade.
L'Europe est toujours la plus petite partie du monde, mais comme le remarque l'auteur de l'Esprit des lois, elle est parvenue à un si haut degré de puissance que l'histoire n'a presque rien à lui comparer là-dessus si on considère l'immensité des dépenses, la grandeur des engagements, le nombre des troupes et la continuité de leur entretien, même lorsqu'elles sont le plus inutiles et qu'on ne les a que pour l'ostentation. D'ailleurs, il importe peu que l'Europe soit la plus petite des 4 parties du monde par l'étendue de son terrain, puisqu'elle est la plus considérable de toutes par son commerce, par sa navigation, par sa fertilité, par les lumières et l'industrie de ses peuples, par la connaissance des arts, des sciences, des métiers, et, ce qui est le plus important, par le christianisme dont la morale bienfaisante ne tend qu'au bonheur de la société.
Céline Spector et Aliénor Ballanger, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On vient d'entendre un extrait de l'article consacré à l'Europe dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Article rédigé par le chevalier de Jaucourt, collaborateur discret et pourtant prolifique de l'encyclopédie. Un premier mot, Céline Spector, sur la vision de l'Europe qui se dégage ici.
Oui, alors ce que Jaucourt essaye de mettre en valeur, c'est ce qu'on peut appeler un grand récit de l'exceptionnalisme européen. C'est-à-dire comment une aussi petite terre, comment un aussi petit continent peut-il être devenu aussi puissant, c'est-à-dire finalement avoir atteint un si haut degré de puissance militaire, économique, être le plus considérable de tous par son commerce, son industrie, ses sciences et ses arts. Alors c'est la grande question que se posent à l'époque plusieurs philosophes des Lumières. Donc Jaucourt cite Montesquieu, l'Esprit des lois, c'est sa source d'inspiration principale, mais il faut bien voir que Voltaire aussi se pose cette question, William Robertson se la posera, c'est-à-dire finalement, quelles sont les raisons pour lesquelles l'Europe est devenue si puissante? Alors c'est toujours en comparaison avec par exemple la Chine ou l'Empire ottoman, parfois même chez Robertson avec l'Inde, qui est à ses yeux la plus grande, la plus ancienne des civilisations. Mmh. Donc si vous voulez, on a toujours cet élément comparatif, et avec bien sûr le risque qui est celui de grand récit de la supériorité européenne, l'idée que l'exceptionnalisme peut se transformer évidemment en un eurocentrisme, et une sorte de grand récit de la supériorité de l'Europe.
On va voir les différentes réponses qui vont être apportées à cet exceptionnalisme européen. Mais ce qu'il faut expliquer d'abord, Céline Spector, c'est que c'est au XVIIIe siècle, véritablement, que va être théorisé le concept d'Europe en tant que territoire unifié.
Alors oui, il y a toute une histoire de l'idée Europe et on peut toujours remonter à l'Antiquité. On a chez Aristote, par exemple, dans le sillage d'Hippocrate, qui était médecin, l'idée selon laquelle l'Europe se distingue de l'Asie de manière structurelle. Et donc, il s'agit toujours de comparer la Grèce et puis l'Asie ou l'Europe et l'Asie.
L'Europe est alors la Grèce et ses colonies.
Mais voilà, c'est ça. L'Europe, c'est alors la Grèce et ses colonies. Mais disons que à partir du XVIIIe siècle, quelque chose transparaît réellement. C'est vraiment une réflexion sur l'Europe par-delà les nations qui la composent. Avec l'idée que malgré les différences de caractères nationaux, qui sont toujours reconnues, malgré les différences de régime politique et même de religion, eh bien, il peut y avoir des traits communs, fondamentaux, qui sont à la fois politiques, sociaux, économiques, culturels, et qui dessinent quelque chose comme un esprit de l'Europe. Et ça, c'est vraiment une idée qui apparaît au XVIIIe siècle, et même plus précisément avec Montesquieu, et de manière quasi contemporaine, Voltaire.
Et puis il y a cette idée que l'Europe pourrait permettre, si elle était unifiée, une paix perpétuelle. C'est une idée qui a été développée par Kant et par l'abbé de Saint-Pierre avant lui. Et on peut même trouver des réflexions de ce type au Moyen-Âge, c'est l'inspecteur.
Oui, alors l'idée de paix perpétuelle, en effet, elle remonte vraiment loin, dès le 15e siècle. Pierre Dubois, on a beaucoup d'exemples ensuite, Sully et Henri IV, mais aussi William Penn au XVIIe siècle. Mais disons qu'au XVIIIe siècle, on a un exemple qui est vraiment remarquable, qui est l'abbé de Saint-Pierre, qui donne de très nombreuses versions de son projet. Et d'autre part, il était négociateur au service de la France au moment des négociations du traité d'Utrecht en 1713. Donc c'est quelqu'un qui était à la fois un acteur de l'histoire et un théoricien. Et il donne vraiment ce projet de paix perpétuelle, toutes ses versions, il va dans les cours, il essaye de défendre son projet, avec l'idée qu'il faut finalement mettre fin à l'état de guerre entre les grandes puissances et mettre en place un tribunal, un arbitrage et une forme de confédération, c'est-à-dire une alliance qui permette aux différents États de s'unir, on pourrait dire quasiment, avec des institutions, avec un lieu central où il y aurait justement cet arbitrage qui permettrait de régler tous les litiges, notamment les litiges territoriaux.
Et quels échos trouve-t-il alors en Europe ?
Alors, le problème de l'abbé de Saint-Pierre, c'est que c'est un réformateur prolifique. Alors, il a énormément d'idées, c'est un personnage tout à fait passionnant. Mais très vite, tout le monde va juger que son projet est complètement chimérique. Alors, il faut savoir que les premières versions du projet incluent l'Empire ottoman, donc la Turquie actuelle, l'Algérie et le Maroc. Petit à petit, il se restreint à la chrétienté. Mais même là, on peut dire que la plupart des gens trouvent que les monarques européens voudront jamais abandonner leur souveraineté, ils voudront jamais renoncer à la décision du droit de faire la guerre ou de la paix, qui est vraiment constitutive de la souveraineté. Donc en fait, tout le monde se moque de l'abbé de Saint-Pierre, y compris Rousseau, quand il fait un extrait et un jugement de ce texte, le projet de paix perpétuelle. Donc tout le monde dit c'est la folie de la raison. Enfin ça c'est vraiment une expression de Rousseau que je trouve magnifique, la folie de la raison, parce qu'au fond c'est une folie de vouloir être sage parmi les fous. Et donc Rousseau le dit très bien, c'est cette idée d'une raison perfectionnée, mais qui finalement ne trouvera jamais preneur.
Et pourtant, Kant va prolonger cette idée de paix perpétuelle.
Oui, alors ce qui change un tout petit peu, donc le texte de Kant vers la paix perpétuelle 1795, donc on est après la Révolution française. Et on peut dire qu'il y a une condition qui commence à devenir plus crédible, qui est l'idée d'une républicanisation possible des États d'Europe. Donc par exemple, l'obstacle fondamental pour Rousseau, c'était l'idée que les grandes monarchies, potentiellement despotiques, sont animées par le désir de domination, le désir de distinction, le désir de gloire, et que jamais ce désir ne pourra se subordonner à l'intérêt éclairé. Parce qu'au fond, les monarques préfèrent toujours leur grandeur au bonheur de leur peuple.
Mais si le peuple parvient à se libérer, cela change la donne.
Et bien voilà, c'est-à-dire que si on arrive à une forme républicaine, si les peuples eux-mêmes décident de la guerre et de la paix, eh bien ils savent qu'ils devront payer le prix des guerres meurtrières. Et dans ce cas, eh bien Kant escompte du fait que les républiques pourront à terme effectivement se comporter de manière plus pacifique.
Et puis ces réflexions, c'est l'inspecteur, émergent aussi à un moment au XVIIIe siècle où les échanges connaissent un essor fulgurant en Europe. Il y a un marché mondial qui voit le jour à ce moment-là. Cela joue aussi dans les réflexions qui apparaissent à ce moment-là.
Oui, alors la mondialisation, les historiens parlent de mondialisation de l'économie. En fait, il y a plusieurs phases. Il y a une phase qui date en fait quasiment du lendemain de la découverte du Nouveau Monde, du XVIIe siècle. Bon, le XVIIIe voit l'accroissement de la mondialisation des échanges. Donc en fait, c'est moins, on pourrait dire, un changement de nature qu'un changement de degré. C'est-à-dire qu'en effet, l'Europe commerce avec le reste du monde. Et comme le dit Montesquieu dans l'Esprit des lois, en réalité, elle réalise d'une certaine manière l'unité du monde par les échanges. Et c'est grâce à elle qu'une certaine forme d'histoire universelle apparaît, parce qu'elle rencontre d'autres peuples, d'autres civilisations, et qu'elle essaye de retracer justement le récit de ces autres peuples et de ces autres civilisations, leur histoire. Donc il se place quelque chose, mais c'est pas une rupture d'un coup, puisque depuis les Portugais, depuis les Espagnols, effectivement, on a déjà ce phénomène de mondialisation.
Se dessine là quelque chose qui est une nouvelle idée de l'Europe. Une Europe qui n'est plus du tout l'Europe impériale et carolingienne, héritant plus ou moins de l'Empire romain et se référant à des structures politiques bien particulières. Ce n'est déjà plus l'Europe classique de la balance, de l'équilibre entre les forces établies de telle manière que jamais la force de l'un ne l'emporte d'une façon qui serait trop déterminante sur l'autre. C'est une Europe de l'enrichissement collectif. C'est une Europe comme sujet économique collectif qui a, quelle que soit la concurrence qui s'établit entre les États, ou plutôt à travers même la concurrence qui s'établit entre les États, à s'avancer dans une voie qui sera celle du progrès économique illimité.
Voilà, on entendait un extrait d'un cours de Foucault au Collège de France. Pour Foucault, à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle, ce n'est plus l'Empire ni la chrétienté qui fondent l'unité européenne, c'est l'inspecteur. C'est là que se situe la rupture.
Tout à fait. Alors, il y a plusieurs... Foucault, c'est très intéressant, propose une généalogie. Donc, il y a plusieurs phases, plusieurs étapes. L'Europe du XVIIe siècle, ça n'est plus... L'Europe impériale, disons, elle a renoncé, hein, comme le disait Montesquieu, au grand rêve de monarchie universelle, c'est-à-dire à la reconstitution d'un empire sur son territoire qui serait analogue à celui de l'Empire romain, qui reste le grand modèle, la grande référence. Donc ce n'est pas un empire, ce n'est pas non plus la chrétienté qui réaliserait l'unification non par la force mais par la foi, c'est donc une collection de souverainetés qui sont les unes avec les autres dans des rapports de rivalité. Donc on a une collection de souverainetés dans des rapports de rivalité, les situations sont conflictuelles, et toute la question est de savoir comment assurer la paix dans ce contexte-là. Et c'est à ce moment-là qu'un certain nombre de philosophes vont avoir une sorte d'idée de génie qui est on n'obtiendra pas forcément la paix par les institutions, par la confédération, par l'arbitrage ou par l'alliance, mais on essayera plutôt de compter sur les rapports entre les peuples, entre les nations, c'est-à-dire sur l'essor des échanges. Et c'est ce que Foucault appelle la naissance du sujet économique de l'histoire. Il l'associe avec la genèse du libéralisme, rationalité politique nouvelle, et il le date du milieu du XVIIIe siècle. En fait, il ne cite pas Montesquieu, mais c'est vraiment Montesquieu, 1748, l'esprit des lois paraît cette année-là, qui le premier avance cette idée d'un doux commerce entre les peuples.
L'esprit des lois qui paraît donc pile un siècle après la paix de Westphalie, qui va aussi jouer un rôle important, c'est l'inspecteur dans cette mutation.
Oui, alors la paix de Westphalie, c'est un événement qui met fin à la guerre de 30 ans, qui laisse l'Allemagne exsangue, qui la fragmente en une multiplicité de petits états. Donc c'est la fin du pouvoir allemand jusqu'à Bismarck. Et Foucault dit d'ailleurs dans un passage du cours qui est génial, il dit finalement tout le travail ensuite, ça a été de reconstituer l'hégémonie allemande, en fait, tout le travail des Allemands, et puis ensuite de lutter contre cette hégémonie. Ça, c'est l'histoire européenne. Mais disons que ce qui est très intéressant, c'est que le doux commerce, à ce moment-là, en 1748, donc un siècle après la paix de Westphalie, c'est une sorte d'alternative possible. Au moment de la paix de Westphalie, on a l'idée de mettre autour d'une table les grandes puissances européennes, de faire des traités et d'avancer par la diplomatie. Et à ce moment-là, c'est la France et la Suède qui sont les grandes gagnantes. Un siècle plus tard, c'est un nouvel équilibre qui se crée, non plus la balance des forces, non plus l'idée qu'entre les nations, on va trouver finalement un équilibre, de telle sorte qu'on ne reconstituera pas une hégémonie impériale, mais plutôt, précisément, cette idée que les peuples vont échanger entre eux, même indépendamment ou au-delà, en tout cas, des États.
Citons justement un extrait de l'Esprit des lois de Montesquieu. Voilà ce qu'il écrit. Le commerce guérit des préjugés destructeurs et c'est presque une règle générale que partout où il y a des mœurs douces, il y a du commerce et que partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces. Ce qui est intéressant, c'est l'inspecteur, c'est qu'on voit que Montesquieu définit aussi cette idée européenne par opposition à un autre. Il y a un contraste, c'est comme cela qu'il définit l'idée européenne.
Oui, alors il y a toujours un contraste entre l'Europe et ses autres. C'est toujours une définition, disons, qui se distingue. Alors à la fois de l'altérité asiatique, mais aussi africaine et américaine. C'est comme ça qu'on voyait les choses à l'époque. Mais ce qui est intéressant dans l'idée de doux commerce, c'est qu'au fond, le commerce, contrairement à la guerre, ne mène pas à la séparation des peuples, mais à leur communication. Donc le commerce, c'est à la fois le commerce matériel et le commerce culturel. C'est le commerce des biens et le commerce des idées. C'est la circulation des personnes. Et donc c'est l'idée qu'au fond, le commerce permet aux peuples de se rencontrer et d'atténuer, sinon de faire disparaître, ce que Montesquieu appelle leurs préjugés destructeurs, qui sont au fond des préjugés xénophobes, qui sont des préjugés haineux. Et donc, l'idée de Montesquieu, c'est, comme disait Léo Strauss, l'illusion libérale dans sa forme la plus noble, mais je crois qu'il y a une vraie noblesse dans cette idée, c'est l'idée qu'en se rencontrant, les peuples vont moins se haïr, et que par ailleurs, le commerce repose sur la négociation, plutôt que sur la prédation, et que quand on négocie, eh bien, on est obligé de prendre en compte les besoins des autres, les intérêts des autres, de parvenir à une forme de compromis, d'accommodement, et donc l'idée de réciprocité, qui est inhérente au commerce, va en effet mener sur la voie d'une pacification des relations entre les nations. Et ça, c'est une idée extrêmement puissante. Je ne crois pas qu'on s'en soit vraiment départi.
Vous citiez tout à l'heure William Robertson, c'est l'inspecteur. C'est un historien plutôt oublié, mais c'est lui qui va proposer au XVIIIe siècle une première histoire unifiée de l'Europe, avec cette idée que le commerce est ce qui fait passer l'Europe de la barbarie à la civilisation.
Oui, alors c'est très intéressant le passage de Montesquieu à Robertson, hein, qui est un disciple de Montesquieu. C'est le passage d'une théorie de l'histoire qui est comparatiste à une philosophie de l'histoire, qui est vraiment unifiée, cohérente, homogène, avec un grand récit de l'Europe, de la barbarie à la civilisation, avec un récit d'émancipation. Et Robertson utilise le schéma du doux commerce, mais vraiment pour lui, c'est le moteur de l'histoire, hein, ce que Marx appellera le moteur de l'histoire. C'est-à-dire qu'au fond, comment passe-t-on de la barbarie à la civilisation ? Eh bien, grâce au commerce. Alors, le commerce, là encore, hein, les échanges culturels, et Robertson, par rapport à Montesquieu, et moins aristocrate, on va dire, plus démocrate à certains par certains aspects, il est conscient de l'importance de la liberté accordée aux communes, aux villes, qui est liée à l'essor du commerce. Donc, depuis les cités italiennes du XIIIe siècle, l'idée que ce sont les villes qui ont été porteuses de la liberté en Europe, et que l'alliance entre les bourgeois des villes et les princes, les monarques, par-delà l'aristocratie, par-dessus l'aristocratie, c'est ça qui a été le moteur de la liberté en Europe. Donc je crois que c'est ça qu'apporte Robertson par rapport à Montesquieu, c'est vraiment le fait que, bon, il reconnaît que la féodalité a été structurante pour la constitution de l'esprit européen, comme la romanité avant la féodalité, mais le commerce apporte la liberté, il apporte la liberté avec l'essor des communes, et par ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que Robertson ajoute le vocabulaire des droits naturels de l'humanité, droits naturels et inaliénables. Que Montesquieu n'utilisait pas. Et donc là, on a vraiment l'idée que ben voilà, le commerce et les droits de l'homme, c'est ça qui fait l'Europe.
Et alors, il y a la question qui va se poser, à cet inspecteur, c'est sur quelle valeur cette Europe unifiée doit s'appuyer. Alors, on a parlé de la paix, mais il y a aussi cette idée de liberté et de justice. Rousseau, par exemple, imagine un peuple européen souverain et libre.
Alors, Rousseau est très ambigu et passionnant à cet égard, mais il est toujours un peu complexe à étudier, parce que c'est un réaliste politique, contrairement à ce qu'on dit souvent, hein, c'est pas un utopiste, il critique l'utopie de Saint-Pierre. Donc d'un côté, il retrace les raisons pour lesquelles l'Europe pourra adopter à ses yeux la forme de la Confédération. Donc il y a des très bonnes raisons historiques, généalogiques, il y a des raisons qui datent de l'Empire romain, de la papauté, etc. Bon. Mais d'un autre côté, il considère que le contrat social européen, qui doit avoir lieu théoriquement entre les nations d'Europe, les peuples d'Europe, eh bien ce contrat finalement est impossible étant donné les conditions qui sont celles de l'Europe pré-révolutionnaire, pour le dire vite. Évidemment, Rousseau ne le savait pas, mais disons qu'ils sont celles de la domination des monarchies absolues. Mais si vous voulez, Rousseau, ce qui est très intéressant, c'est que son modèle du contrat social, qu'il reprend pour l'essentiel à Saint-Pierre, a aussi, disons, apporte quelque chose, une idée, qui n'était pas chez son prédécesseur. C'est pas seulement pour lui, le contrat n'est pas seulement pour lui l'idée de faire une alliance irrévocable, avec des institutions, y compris une présidence tournante, des impôts, etc. C'est l'idée que, effectivement, le contrat ne peut être fondé que sur la liberté des peuples associés. Et ça, c'était pas une idée qui se trouvait chez Saint-Pierre. Saint-Pierre qui avait plutôt un modèle hobbesien du contrat, donc on met un peu de contrainte là-dedans et puis ça se résoudra tout seul. Non, Rousseau dit, il faut la liberté des peuples associés. C'est ça qui est sa marque de fabrique, hein, dans sa conception du contrat social européen.
Mais ce qu'on comprend bien, en tout cas, c'est l'inspecteur, peut-être pour clôturer cette première partie, c'est que la recherche des racines européennes semblait une quête impossible entre ceux qui veulent voir une Europe héritière de l'Antiquité classique, ceux qui insistent sur les racines chrétiennes de l'Europe et ceux qui veulent voir dans l'Europe l'incarnation de la société laïque, démocratique que les Lumières appelaient de leur vœu.
Oui, alors le risque de toute généalogie, hein, lorsqu'on cherche l'origine de l'idée européenne, de la conscience européenne, le risque de toute généalogie est double. C'est d'une part une lecture idéologique, donc on crée un mythe avec un grand récit, bien sûr. Alors il y a toujours les pères fondateurs, et puis ensuite on crée une sorte de légende. Et puis deuxième risque, la téléologie, c'est-à-dire on projette dans l'origine ce qu'on veut voir arriver à la fin. Bon. Mais je crois pas que ces deux risques soient absolument, des écueils impossibles à surmonter. Je crois que ce sont des risques que toute pratique historique ou généalogique comporte des risques, charge ensuite à l'historien ou au généalogiste de les éviter.
Je vais me tourner maintenant vers vous, Aliénor Ballanger. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe unifiée va prendre forme. Et je vous propose d'abord d'écouter le philosophe Étienne Tassin.
Je trouve que Monet et les initiateurs de l'Europe se sont révélés très machiavéliens. C'est-à-dire, ils ont dit, puisque De Gaulle le premier, mais pas le seul, oppose la souveraineté nationale à la constitution d'une communauté européenne qui serait supranationale, alors contournons le problème par une intégration fonctionnelle et économique, faisons la communauté du charbon et de l'acier, etc. C'est-à-dire créons les conditions économiques par lesquelles telles, les États européens seront liés de telle façon qu'ils devront nécessairement traduire en termes d'institutions politiques la série des interdépendances économiques qu'ils auront nouées entre eux. Et là, je pense que c'est un peu ce qui s'est passé entre, disons, 48 et Maastricht.
Un extrait des Chemins de la philosophie du 20 mai 2014. L'Europe a été fondée dans un esprit machiavélien, Aliénor Ballanger.
Oui, alors pour comprendre un petit peu ce moment machiavélien de l'Europe, ce qui est important, c'est de comprendre que tout au long du 19e et également de manière importante au début du 20e siècle, en fait, il est en train de se développer trois concepts d'Europe. Un concept plutôt culturel, fondée sur la nature, la spécificité de la civilisation européenne, un concept plutôt philosophique sur l'esprit européen. Qu'est-ce que la philosophie en tant qu'incarnation de l'esprit européen dans le cas de l'Europe comme cadre, comme concept plutôt civilisationnel, notamment les réflexions de Valéry, par exemple, et dans le cadre de l'Europe comme concept philosophique, évidemment, la grande importance de Husserl dans ce cadre-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux concepts d'Europe, culturels et surtout philosophiques, vont complètement être remis en cause par les deux conflits mondiaux. La Première Guerre mondiale, à la suite de la Première Guerre mondiale, on aura le texte de Valéry qui nous montre que la civilisation européenne, donc l'Europe comme concept civilisationnel, est mortelle. Et un petit peu avant la Seconde Guerre mondiale, on a le texte très important de Husserl sur la crise de l'esprit européen. Et donc en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que le concept d'Europe politique naît à partir de l'effondrement de l'Europe pensée comme concept civilisationnel, culturel, et de l'Europe pensée comme concept philosophique. Et c'est à ça que fait référence notamment Étienne Tassin, avec cette idée que, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, on ne pourra plus jamais penser l'Europe comme on l'a pensée précédemment, et on doit à présent la penser sur des bases foncièrement politiques. Et c'est à ce moment-là que on commence à réfléchir à une vision machiavélienne de l'Europe comme concept politique à la fois stratégique et institutionnel. C'est-à-dire que l'Europe, la construction européenne devient une stratégie.
Mais un concept politique qui pose un certain nombre de questions. À l'origine, Aliénor Ballanger, l'Europe est présentée comme un moyen justement de garantir la démocratie, de redonner voix au peuple. Mais toute la question, c'est quelle démocratie veut-on? Quelle place accordera-t-on au peuple? Et là-dessus, plusieurs visions s'affrontent.
Oui, on a plusieurs visions, effectivement. Trois visions principales. Une généalogie qui est plutôt issue des écrits personnalistes et communalistes, qui trouvent notamment leur origine dans l'école des cadres d'Uriage et qui se font à la suite du texte de Mounier, Révolution communautaire et personnaliste. Et donc là, on a toute une réflexion qui va fonder la vision communautaire de l'Europe. Un mouvement très important, parce que c'est ça qui va donner en partie lieu à la dénomination de la première Europe politique, à savoir la communauté ou les communautés européennes. Et dans cette vision, la démocratie est inféodée à la communauté et au personnalisme. C'est-à-dire que la démocratie doit être repensée contre la démocratie libérale, contre une trop grande importance du système représentatif qui, selon ses penseurs, a mené à la crise de la fin de la Troisième République et du conflit de la Seconde Guerre mondiale.
Justement, peut-être qu'on peut revenir un instant aux origines de ce mouvement communautaire. C'est à la fin du 19e siècle que le philosophe et sociologue Ferdinand Tönnies explique que la crise de l'époque moderne résiderait dans une dissolution du lien communautaire. Et Ferdinand Tönnies va être une inspiration importante pour ces mouvements.
Oui, alors il l'est avec la seule nuance que, en fait, le texte de Tönnies,
qui paraît donc en 1887.
Voilà. Met du temps à être connu, déjà même en Allemagne, où il prend une résonance importante avec la crise de la République de Weimar, et encore plus en France, où il arrive en France dans les années 30, hein, vraiment avec ce mouvement communautaire français qui se fonde sur une lecture ou une relecture des conceptions de Tony sur la communauté et la société. Et on en voit des traces formelles, puisque dans les cahiers d'Uriage, des personnalités, on y reviendra sans doute, comme Pierre Hury ou Paul Reuter, écrivent des brochures où ils font explicitement référence au texte de Tenise en montrant que, à présent, l'Europe politique devra être pensée sur un modèle plutôt communautaire que sociétaire, c'est-à-dire sur des liens d'interdépendance, de fusion importants qui ne peuvent plus être seulement du ressort libéral uniquement à partir d'une vision justement du doux commerce ou de la concurrence entre institutions égales.
Et pourtant, les fondateurs de l'Europe vont faire le choix de s'inspirer plutôt de la Constitution américaine, avec cette idée que le peuple serait le bénéficiaire de l'organisation politique européenne, mais n'en serait ni l'auteur ni un acteur.
Oui, alors ça, cette généalogie-là, elle est différente de celle à laquelle je faisais référence, je faisais référence plutôt à la généalogie qu'on nomme de type plutôt française, effectivement, celle philosophique qui a une vision plutôt proudhonienne du fédéralisme, qui se développe dans les années 30 et au début des années 40, alors que là, vous faites plutôt référence à la généalogie italienne, des pères fondateurs italiens, comme Altiero Spinelli ou Mario Albertini, qui, eux, effectivement, vont relire les Federalist Papers, donc une somme d'écrits qui compile les lettres et les articles de Hamilton, de Madison et de Jay dans le cadre post-indépendance américaine, donc à la fin des années 1780. Et donc Albertini et Spinelli vont reprendre ce fédéralisme plutôt de type institutionnel que personnaliste ou communautaire pour essayer de réfléchir là vraiment à une construction européenne en termes institutionnels. Et ça fait sans doute la transition aussi avec ce que disait Étienne Tassin tout à l'heure, puisque Spinelli, il paraît une compilation de ses lettres et de ses écrits de confinement, parce qu'il a quand même été emprisonné puis confiné, et notamment sur la fameuse île de Ventotene, pendant 17 ans. Et donc ces écrits vont donner lieu à un livre qui s'appelle Machiavel au XXe siècle, où lui se revendique vraiment textuellement de la tradition machiavélienne pour différents points, notamment pour l'idée que le fédéralisme en tant que idéologie qui est contre le modèle stato-national doit permettre de conquérir et de conserver le pouvoir. Donc là, il y a une vision stratégique, mais il y a aussi une vision de conquête du pouvoir, avec l'idée également qu'il doit y avoir une autonomie et une supériorité du politique sur l'économique et le juridique. Alors ça, on verra que ça sera pas mal remis en cause par une autre généalogie plus technocratique de la construction européenne. Et l'idée aussi que là où peut-être chez d'autres penseurs, on avait une vision en termes de bien et de mal de la construction européenne, de progression, de valeurs morales, dans le texte de Spinelli, on a l'idée qu'on doit piocher dans la science politique les outils, mais que c'est une science politique qui doit être prescriptive mais non normative. Et il dit par exemple que les fédéralistes aspirent à être des constructeurs d'institutions, mais pas des dominateurs d'âme.
Et qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, c'est l'idée que les institutions devront fonctionner de manière efficace pour rendre possible une utopie européenne, mais qu'il ne doit pas y avoir l'idée que le fédéralisme devra changer la personne humaine. Ce qu'on retrouvait beaucoup plus chez les fédéralistes de type proudhonien, où là, le fédéralisme, c'était, on dit fédéralisme proudhonien et fédéralisme intégral, parce que le fédéralisme devait changer entièrement la personne.
Il y avait une vision comme ça. Alors que dans le fédéralisme hamiltonien, notamment de ces penseurs comme Spinelli et Albertini, le fédéralisme est strictement politique. Il n'y a pas une dimension totalitaire ou philosophique du fédéralisme.
On voit qu'il y a plusieurs visions qui s'affrontent. Aliénor Ballanger, et c'est dans les années 40 que va émerger l'idée de l'Europe comme une communauté de communautés, une idée véritablement d'une Europe fédérale.
Oui, et ça apparaît très concrètement avec l'idée qu'il y a beaucoup de groupes, de micro-communautés de penseurs, de théoriciens, qui se met en place avec des revues, un certain nombre de revues comme ça, dont la revue Esprit, dont le mouvement Ordre Nouveau, mais qui donne lieu aussi à une revue, qui ensuite sera informée dans une autre revue qui s'appelle La Fédération, et dans des écoles aussi, donc des revues, des écoles, des mouvements politiques. Et ça fait toute une espèce de constellation qui se met en place tout au long des années 30 et au début des années 40. Et ces mouvements, ensuite, vont se rencontrer. Alors d'abord au niveau national, au niveau français, par exemple, les communalistes et les personnalistes vont se rencontrer avec ceux qui ont une vision un peu plus institutionnelle du fédéralisme. Et ensuite, avec le temps des congrès, donc congrès d'Artenstein, congrès de Montreux, là, il va y avoir progressivement une transnationalisation de ces communautés de penseurs fédéralistes, d'abord entre les Français et les Italiens, puis avec les Belges, avec les groupes néerlandais. Et donc on va avoir une forme de communautarisation de ces micro-communautés qui vont donner lieu en fait à une Europe qui est véritablement possible. Et c'est renforcé par le rôle de la résistance, puisque avec la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, on a effectivement des manifestes qui se mettent en place.
Une circulation des idées.
Une circulation des idées et des résistances, avec la mise en place d'un peuple transnational qui s'informe dans une communauté d'épreuves, en quelque sorte. Face à l'épreuve, nous devons nous réunir par-delà les logiques et les frontières nationales pour contribuer à une Europe véritablement efficiente et qui soit plus de l'ordre justement de l'utopie. L'Europe est nécessaire, l'Europe doit se bâtir à ce moment-là.
On va voir justement comment ces différentes visions vont influencer la construction européenne. On en parle dans un instant.
Je me sens loin du froid des banquises, je me sens loin de la chaleur des îles. Tes villes d'or, tes villes grises, c'est mon trésor, mon assise. Je suis d'accord pour l'accordéon, mais tu prends encore pour Napoléon. C'est pas le siècle des lumières, celui des rois du désert. Ma vieille Europe est démodée, t'es pas vraiment rock. Y'a rien à faire, t'es tempéré, t'es pas ton époque. Chez toi, je me sens chez moi. Je me sens bien chez toi, je me sens chez moi. Avec ce passé qui s'accroche à toi, tes vieilles histoires, tes meubles de roi, c'est celui de mes premiers pas, ce grand décor d'opéra. Des souvenirs de géographie, jusqu'aux terres vierges, jusqu'à l'infini. Laissez-moi mon parti pris pour cette Miss Monde dans l'oubli. Ma vieille Europe, t'es démodée, t'es pas vraiment rock. Y'a rien à faire, t'es tempérée, t'es pas ton époque. Chez toi, je sens chez
pâte de lait de conseil. Surtout que t'es la plus vieille.
Ma vieille Europe, t'es démodée. T'es pas vraiment rock. Y'a rien à faire de t'embérer. T'es pas ton époque.
Ma vieille Europe de France Gall, une chanson sortie en 1980. Nous poursuivons notre généalogie de l'idée européenne en compagnie de Céline Spector et d'Aliénor Ballanger. Alors Céline Spector, en quoi les grands récits de l'Europe que nous avons retracés dans cette première partie de l'émission vont finalement s'avérer insuffisants après la Seconde Guerre mondiale ?
Alors, ils sont en un sens insuffisants face à l'ampleur de la tragédie. C'est-à-dire que, comme le dira Adorno, philosopher après Auschwitz, c'est quasiment impossible. Une forme de scandale face aux effets de la raison et un nouveau procès des Lumières qui apparaît, notamment donc sous l'impulsion de l'école de Francfort, de la première école de Francfort, Adorno et Horkheimer, avec l'idée que les Lumières sont en un sens responsables du désastre. Ce qui évidemment est une folie pure, hein, c'est une idée complètement fausse.
En quel sens le serait-elle ?
Mais parce qu'en fait, au fond, la raison qui aurait créé les Lumières est une raison utilitaire, instrumentale, planiste, qui au fond se serait transformé en instrument de domination et de barbarie. C'est-à-dire que c'est une raison qui aurait voulu dissoudre les mythes et les superstitions, les tutelles et les préjugés, mais au fond elle se serait elle-même enferrée finalement comme un instrument de domination au service de fins qui évidemment n'étaient pas prévues initialement. Donc au fond, le procès des Lumières a eu un impact réel, mais je crois que par-delà ce procès des Lumières, donc la dialectique négative de la raison, la philosophie des Lumières a continué à jouer son rôle. Donc de plusieurs manières, notamment l'idéal kantien, puisque c'est comme ça qu'on le caractérise, hein, Saint-Pierre est un peu oublié, Rousseau est moins connu. Donc l'idéal kantien, qui est un idéal cosmopolitique, et notamment une grande idée de Kant, qui est l'existence d'un droit cosmopolitique, qui implique la liberté de circulation et même la liberté de, éventuellement, disons, d'hospitalité, hein, la liberté qui s'accompagne d'un devoir d'hospitalité universelle. Cette grande idée de Kant va jouer son rôle dans le moment fondateur. Et notamment, on peut réfléchir aux quatre grandes libertés de circulation qui sont fondamentales pour le marché intérieur européen, comme une forme de legs du kantisme. C'est ce que fait par exemple Habermas, ou c'est ce que fait Jean-Marc Ferry, c'est ce que fait à sa manière aussi Étienne Tassin. Donc c'est vraiment une idée très 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 commune aujourd'hui que de considérer que Kant, malgré tout, a infusé, on pourrait dire, hein, l'idée européenne.
Et en même temps, le dogme dominant va être celui de l'ordo-libéralisme. Alors de quoi s'agit-il et comment cette conception réussit-elle à s'imposer à Aliénor Ballanger?
Elle parvient à s'imposer parce qu'il y a une espèce de relecture de l'importance de la constitution économique, constitution politique et constitution économique. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un lien assez étroit entre les défenseurs d'un constitutionnalisme politique qui apparaît notamment, donc on l'a vu, chez les fédéralistes de type hamiltonien comme Spinelli ou Albertini. Donc un constitutionnalisme politique, c'est-à-dire fondé sur des principes politiques, des droits qui seraient intégrés à une constitution, à un corpus juridique qui permet de les stabiliser au-delà de l'instabilité politique, gouvernementale, ou représentative. Et ça, on voit que c'est progressivement informé dans un constitutionnalisme économique qui va apparaître notamment à la fin des années 30 et qui se matérialise même par un échange épistolaire important entre Spinelli et Röpke. Donc Röpke qui est l'un des principaux théoriciens de l'ordolibéralisme, pour réfléchir à comment créer au sein d'une constitution économique, qui ne dit pas son nom comme tel, des principes qui vont permettre de conférer de la solidité et de la stabilité à au marché européen.
C'est l'idée de fournir un cadre politique qui permet au marché de s'exprimer. C'est en cela que les ordolibéraux se détachent des libéraux.
Du moins, un cadre contraignant, effectivement. Et ça donne lieu, par exemple, à ce que l'économiste français Jacques Rueff va nommer un marché institutionnel. Il y a l'idée, toujours dans ce rapport un petit peu entre le modèle hamiltonien et du coup là réfléchi de manière économique avec l'importance des institutions, Jacques Rueff va, dans un article qui est pas suffisamment commenté, va expliquer en quoi l'Union européenne, la communauté européenne puis l'Union européenne, ne sera viable et stable économiquement que si on met en place un marché institutionnel, donc fondé sur des institutions qui sont indépendantes, notamment du politique. Du politique entendu comme...
Le politique politicien.
Voilà, c'est ça.
Alors, ce qui est intéressant, c'est peut-être de rappeler que l'ordolibéralisme est une notion qui est assez ancienne et qui va finalement s'imposer à nouveau après la Seconde Guerre mondiale. Les ordolibéraux ont été en quelque sorte marginalisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a Alfred Müller-Harmack qui va inventer cette expression d'économie sociale de marché. Qu'est-ce que cette expression recouvre, Céline Spector ?
Alors, c'est une expression très intéressante qui recouvre pour l'essentiel l'idée selon laquelle le marché, du fait notamment de la croissance qu'il va pouvoir générer, va pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes sociaux, on pourrait dire, d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir réguler le marché de manière coercitive sur le modèle socialiste, on va dire, on va pouvoir plutôt attendre de la liberté elle-même, de la liberté des agents économiques, qu'ils puissent produire un certain nombre de bienfaits qui, dans le cadre de certaines institutions, puisque comme le rappelait Aliénor Ballanger, le marché sera effectivement régulé par des institutions et notamment des institutions indépendantes, et bien dans ce cadre des institutions, le marché va pouvoir améliorer la situation sociale de tous, le bien-être économique de tous. Et donc c'est une idée évidemment qui va jouer un rôle absolument majeur. On peut dire qu'aujourd'hui encore, c'est l'idéologie dominante. C'est l'idée d'une troisième voie entre communisme et, on pourrait dire, capitalisme pur. Et cette idée était portée après la Seconde Guerre mondiale, non seulement par les ordolibéraux, mais aussi, dans un autre esprit, par les planistes français, puisque dans les premières années de la construction européenne, ce sont plutôt les planistes français qui, entre guillemets, avaient la main sur la genèse des institutions. Et on peut dire qu'en un sens, les cadres de l'école du Riage, dont parlait Aliénor Ballanger à l'instant, ont joué un rôle majeur. Que ce soit en effet, il a été cité tout à l'heure, Uri, ou que ce soit Paul Rotter, enfin d'autres cadres encore, ils ont joué un rôle absolument décisif dans l'ingénierie institutionnelle qui s'est mise en place au tout début des années 50.
Paul Rotter qui a par exemple joué un rôle clé dans l'invention de cette Europe technocratique qu'on a toujours aujourd'hui. Aliénor Ballanger, vous vouliez réagir ?
Oui, pour faire écho à ce que disait Céline Spector, et notamment dans l'importance un peu de la théorie française et planiste dans les premières années de la construction européenne, on voit que déjà dans la pensée du Riage et chez les communalistes et les personnalistes, il y a cette idée que, en fait, et ça c'est contre-intuitif avec ce qu'on voit aujourd'hui, il y a l'idée que l'économie de concours, donc c'est une citation, l'économie de concours, doit venir remplacer l'économie de concurrence sur un modèle très libéral, le modèle du laisser-faire, laisser-passer, et que l'économie de concours, qui siérait davantage au modèle européen, est fondée sur un respect des solidarités organiques qui existent au sein des communautés humaines, et que cette économie de concours, fondée sur le modèle du Betriebsgemeinschaft qu'on voit chez les néo-romantiques...
Alors, il faut que vous nous expliquiez ce que c'est.
Les Betriebsgemeinschaft, c'est l'idée que des petites entreprises, entendues comme entités économiques, doivent coopérer entre elles pour donner lieu plutôt à un modèle corporatiste de l'économie.
Mais on n'a pas l'impression que ce soit le modèle qui ait été finalement conservé, puisque aujourd'hui c'est quand même la concurrence libre et non faussée qui prévaut.
Oui, parce que entre-temps, il y a eu l'influence de l'ordolibéralisme qui a réintégré ce modèle de la concurrence libre et non faussée qui est à l'origine de cette philosophie chez des penseurs comme Röpke par exemple. Mais à l'origine, dans le modèle français en tout cas, l'économie de concours devait permettre de limiter les risques intrinsèques à la concurrence qui mettait de l'antagonisme, plus même que de l'adversité, entre des entités économiques.
Vous avez parlé de cet objectif de créer une Europe prémunie des vicissitudes du politique, et cela passe par le recours à un gouvernement des experts. Je vous propose d'écouter Jean-Marc Ferry.
Les fondateurs de la construction européenne, dont Jean Monnet en particulier, étaient convaincus qu'il ne fallait surtout pas associer les peuples, parce que, disaient-ils, ils n'ont aucune expérience de ce que peut être une construction européenne. Et puis c'était l'esprit technocratique de l'époque dans la haute administration française, le commissariat général au plan, la direction de la prévision, etc., avec des hauts fonctionnaires fervents qui étaient vraiment attachés au service public, etc., et qui étaient sûrs que les questions politiques pouvaient se ramener à des problèmes techniques. Donc on retrouve la critique husserlienne, n'est-ce pas, et que la démocratie, ben c'est très sympa, mais enfin, que les parlementaires ont en gros 14 ans d'âge mental et qu'il faut surtout pas les associer à des questions aussi complexes. Donc on est resté comme ça sur ce schéma pendant très longtemps, et ça passait, pourquoi? Parce que l'Europe n'était pas une affaire encore très importante.
Jean-Marc Ferry, titulaire de la chaire de philosophie de l'Europe à l'université de Nantes, il répondait à Étienne Klein dans la conversation scientifique sur France Culture. La communauté européenne s'est donc sciemment faite sans le peuple, d'où le désamour envers l'Europe auquel on assiste aujourd'hui et qui s'était déjà cristallisé en 2005 au moment du référendum sur la Constitution, Céline Spector.
Oui, alors on peut aussi retracer cette, entre guillemets, contre-histoire. C'est-à-dire qu'en effet, depuis le début, autour de Monnet, autour de Robert Schuman, on a ces hauts fonctionnaires extrêmement dévoués, mais en effet très peu démocrates. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés qu'en effet, la démocratie parlementaire, c'est en fait une catastrophe. Et que un gouvernement qui est la proie de l'opinion publique, au fond, c'est du théâtre, mais c'est du grand guignol. C'est-à-dire qu'au fond, il faut remplacer ce modèle de démocratie parlementaire qui a échoué par un vrai planisme rationnel et qui soit en effet lié au gouvernement des experts. Et donc, de ce point de vue-là, le fédéralisme est associé à cette idéologie technocratique. Et on peut pas le nier. Et évidemment qu'aujourd'hui, surtout depuis les débats qui ont préludé au référendum sur le traité constitutionnel européen de 2005, évidemment, on a aujourd'hui la monnaie de cette pièce-là, c'est-à-dire de cette fondation antidémocratique. Cela dit, je crois pas du tout que ce soit rédhibitoire. Et ça pour des raisons très profondes qui sont liées justement à la généalogie du sujet politique européen. Parce que au bout d'un certain temps, ceux qui faisaient l'Europe se sont aperçus que on ne pouvait plus procéder comme ça. Et dans il y a une seconde vague, entre guillemets, de démocratisation, alors qui est inachevée, qui est incomplète, qui est très imparfaite. Mais la montée en puissance du Parlement européen, notamment depuis son élection au suffrage universel en 1979, est évidemment un élément crucial dans le dispositif. Et il y en aurait d'autres. Ça signifie pas qu'il faut reproduire à l'échelle de l'Union européenne, les institutions qu'on connaît au niveau de l'État. Mais ça signifie bien qu'on ne peut pas s'arrêter au moment de l'origine et dire, voilà, le ver était dans le fruit, les ordolibéraux et les planistes étaient contre, finalement, le pouvoir du peuple. Et donc, l'Europe ne sera jamais démocratique.
Mais la vague de démocratisation dont vous parlez, Céline Spector, elle paraît en effet encore très largement insuffisante. Aliénor Bélanger, le défi, c'est désormais que le peuple européen se constitue en acteur politique qui déciderait par lui-même et pour lui-même.
Oui, alors ça a une longue histoire, parce que, en fait, effectivement, si on reprend les deux généalogies des fédéralistes populaires italiens et des fédéralistes français, il y a le même doute, effectivement, la même remise en cause du modèle parlementaire représentatif de la démocratie. Soit. Avec Paul Reuter, par exemple, qui dit que il faudra, dans une certaine mesure...
Paul Reuter, qui est un juriste français, je le précise pour les auditeurs.
Paul Reuter qui disait qu'il fallait et il faudrait se passer dans une certaine mesure et pour un certain temps des Européens. Donc là, c'est clair. Maintenant, dans ces deux généalogies-là, et ça, je pense que c'est important de le rappeler parce que c'est pas suffisamment dit, il y a une vision complètement différente du peuple européen. Dans la vision française, effectivement, il y a l'idée qu'un peuple européen est illusoire. On le voit, on le lit dans les mémoires de Jean Monnet. Il n'existe pas de peuple européen. Donc, il va falloir faire sans, au sens pas tellement d'une vision forcément négative du peuple, au nom plutôt d'une vision réaliste. Il n'y a pas de peuple européen parce que le peuple se définirait, se construirait historiquement dans le cadre stato-national.
Donc il ne s'agirait même pas de le créer.
Il ne s'agirait même pas de le créer, de mettre en place des institutions qui pourraient progressivement, à la mesure d'une forme d'intégration poussée politique européenne, créer peut-être un jour un peuple. Cette vision est complètement différente dans la vision du fédéralisme italien. Puisque là, le peuple, on considère qu'il est né, un peuple européen, un proto-peuple européen, est né au moment de la résistance, justement. Au moment de la guerre, que le peuple, les peuples d'Europe, auraient pris conscience d'une unité dans l'adversité au fascisme, au totalitarisme, et que ça aurait créé les conditions de possibilité d'un peuple européen. Et d'ailleurs, cette idée de peuple européen au singulier apparaît très tôt, puisque dès un texte de 1955, sous la plume de Spinelli, il parle du peuple européen, il popolo europeo. Mmh. Et là, ce peuple se singularise, et il est plus entendu dans son acception ethnique d'un certain nombre de peuples d'Europe qui vont fonder peut-être un peuple européen, il est vraiment considéré dans sa dimension de démos, de peuple civique, non culturel, non identitaire, mais de peuple civique qui va donner lieu à une démocratie européenne sous couvert d'une avant-garde qui rende possible son auto-identification. Parce que là où les fédéralistes italiens sont intéressants et vont peut-être même dans le sens un petit peu des planistes français, c'est que pour eux, il existe un peuple européen mais qui n'a pas conscience de lui-même. Donc en fait, en tant qu'il n'a pas conscience de lui-même, il n'est pas un acteur politique crédible sans cette reconnaissance. Et c'est le rôle de l'avant-garde de rendre possible cette auto-identification en acteur politique.
C'est intéressant ce que vous dites sur la conscience de soi-même du peuple européen. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Céline Spector, et notamment de cette constitution d'un peuple européen qui soit véritablement un acteur politique?
Alors, c'est une question évidemment fondamentale. C'est une thèse qui revient de manière récurrente depuis notamment une célèbre conférence du constitutionnaliste allemand Dieter Grimm, auquel Habermas a souhaité répondre. La conférence date de 1995, où Grimm dit « il n'y a pas de peuple européen ». C'est la thèse du « no demos ». Et il y a eu un jugement de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe qui allait dans le même sens juste avant. Donc en fait, cette thèse, Habermas a passé son temps à essayer de la démonter, et je crois qu'il a parfaitement raison. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une thèse qui est fortement idéologique. Il n'y avait pas de peuple français avant la centralisation monarchique, avant la Révolution française, avant que l'école fasse son œuvre et que le système scolaire et aussi l'armée fasse son œuvre au XIXe siècle, etc., etc. C'est-à-dire que l'illusion de croire que le peuple existe déjà comme un ensemble solidaire, avant même la création d'institutions, avant même le travail sur les mœurs surtout, c'est une illusion. Et je crois que cette illusion, elle a été extrêmement bien saisie par Rousseau à travers la figure du législateur. Et ce que doit faire le législateur, son travail, c'est de créer ce que Rousseau appelle l'esprit social. Et au fond, l'esprit social ne se préexiste pas à lui-même, il faut le créer. Et donc, il y a un travail sur les institutions, la législation, l'éducation. Ce travail est indispensable, et il est indispensable à l'échelle européenne, comme à l'échelle nationale.
On arrive presque au terme de cette émission. Un dernier mot, Aliénor Ballanger, sur cette nécessité, effectivement, de créer ce peuple européen et ce peuple acteur politique.
Oui, en fait, ce que je pense, c'est que ce qui est important aussi, c'est de ne pas oublier qu'il y a une dialectique entre démocratie et démos. C'est-à-dire que on met un peu la charrue devant les bœufs, pardonnez-moi cette expression, si on considère que la démocratie ne peut se fonder que sur l'existence d'un démos préexistant, qui est comme ça, qui
apparaît a priori un peuple,
et ça donnerait lieu à une démocratie. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on va utiliser en disant il ne peut pas y avoir de démocratie européenne parce qu'il n'y a pas ce peuple européen. Or, la dialectique qui est importante à rappeler, c'est que c'est également la démocratie qui crée le démos. Mmh. Et c'est via une démocratisation des institutions, notamment, qu'un peuple pourra s'auto-identifier. Et ça, c'est déjà présent chez Spinelli dès les années 50-60. Il considère que seule une démocratisation de l'Europe pourra donner lieu à un peuple civique qui s'auto-reconnaît comme acteur politique de l'Union européenne.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur le projet de liaison ferroviaire entre Lyon et Turin.
Oui, un projet d'infrastructure qui doit relier la capitale des Gaules à la métropole piémontaise grâce à une ligne ferroviaire de grande vitesse traversant les massifs alpins par une gigantesque percée dans la roche. Pour les artisans et les partisans de la ligne, l'objectif est clair. Il s'agit non seulement de diviser le temps de trajet par deux, mais aussi de faire passer sur les rails une partie importante du trafic de poids lourds qui engorge et pollue actuellement les Alpes. À la clé, 3 millions de tonnes de CO2 en moins dans nos belles montagnes. Une idée a priori de bon sens donc. Il faut dire qu'il y a à l'origine du projet la volonté affichée par la France, l'Italie, mais aussi l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche de protéger les Alpes à travers la Convention Alpine, un traité international conclu entre ces pays et l'Union Européenne.
Mais le projet suscite depuis plus de 30 ans de vives oppositions à Arjuna.
Oui, ses adversaires nombreux, aussi bien chez les élus de terrain que chez les associations de défense de l'environnement, fustigent un projet démesuré et explique que les infrastructures actuelles, loin d'être saturées, pourraient être modernisées pour s'adapter aux besoins de la société. Il faut dire que les concepteurs du projet s'appuyaient il y a 30 ans sur des prévisions de triplement du fret, or celui-ci est inférieur aujourd'hui à ce qu'il était en 88. Les retombées financières du projet sont-elles aussi pour le moins contestables? Ainsi, en comptant la création de cette nouvelle ligne à grande vitesse, le creusement d'au moins 4 nouveaux tunnels, le projet atteindrait la somme astronomique de 26 milliards d'euros. Or, dans le même temps, la rentabilité du projet est largement remise en cause. Dans un rapport remis au gouvernement en 2014, la Cour des comptes émettait un avis sévère sur le projet et recommandait alors de ne pas fermer trop rapidement l'alternative consistant à améliorer la ligne existante. Elle rejoignait en cela l'avis du Conseil général des ponts et chaussées ou de l'inspection des finances qui estimait que le Lyon-Turin était trop cher et l'équilibre hors d'atteinte.
C'est aujourd'hui un rapport du gouvernement italien qui met le feu aux poudres.
Oui, demandé par les membres de la coalition italienne, le rapport pointe les déséquilibres financiers du projet, estimant que la ligne présente une rentabilité très négative avec des coûts supérieurs de 7 milliards d'euros à ses bénéfices escomptés. Il faut dire que le projet de liaison Lyon-Turin est une véritable pomme de discorde entre la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles qui gouvernent ensemble l'Italie depuis tout juste un an. La Ligue, fortement implantée dans le nord de l'Italie, vante les mérites d'un projet permettant de développer la région et de créer des emplois quand les 5 étoiles dénoncent un gaspillage inutile d'argent public. Face à cette indécision italienne, l'Union européenne, qui finance la moitié du projet et a déjà investi plusieurs centaines de millions d'euros, a adressé un ultimatum à Rome. En cas de suspension du projet, l'Union se réserve le droit de revenir sur l'accord de subvention et même d'exiger le remboursement des sommes engagées.
Et c'est finalement le Premier ministre Giuseppe Conte qui a trouvé une solution pour sortir temporairement de cette crise.
Oui, il a en tout cas réussi à gagner du temps en rédigeant un texte, une acrobatie juridique pour la presse italienne permettant d'éviter l'implosion de la coalition. Il a ainsi adressé une lettre à la société TELT en charge des travaux, l'invitant, je cite, à s'abstenir de toute activité pouvant entraîner des blocages juridiques et économiques pour l'État italien. En clair, le gouvernement a ouvert la voie aux procédures préalables aux appels à projets, sans pour autant s'engager sur les appels à projets eux-mêmes. Un exercice d'équilibriste qui offre 6 mois au gouvernement italien pour se mettre d'accord sans pour autant perdre les 300 millions d'euros de financement communautaire. Un stratagème surtout pour passer les élections européennes qui devrait non seulement départager les étoiles de la Ligue, mais aussi signer la reprise ou l'arrêt des liaisons transalpines.
Merci beaucoup Céline Spector et Aliénor Bélanger de nous avoir accompagnés tout au long de cette histoire européenne. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage Céline Spector, Penser l'Europe au XVIIIe siècle, paru aux presses universitaires d'Oxford. On se retrouve demain pour une émission consacrée à l'économie européenne en perte de vitesse face aux géants chinois et américains. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.